20 000 lieues sous la mer, tour du monde sous-marin. Première partie. 1. Un écueil fuyant. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociations, armatures, capitaines de navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines, militaires et de tout pays, et après eux, les gouvernements des divers états des deux continents se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme, un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres de bord, s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question, la vitesse ennuyée de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait dué. Si c'était un cétacé, il surpassait en volume tout ce que la science avait classé jusqu'à alors. Ni Cuvier, ni Lacébède, ni M. du Méril, ni M. de Quatrefage, n'eussent admis l'existence d'un tel monstre, à moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vu de leurs propres yeux de savants. Apprendre le moyen des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur et 200 pieds et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d'une mille et long de trois. On pouvait affirmer cependant que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce soir par les ichtyologistes, s'il existait toutefois. Or, il existait, le fait en lui-même n'était plus niable, et avec ses penchants qui poussent au merveilleux la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quand elle est rejetée au rang des fables, il fallait y renoncer. En effet, le 20 juillet 1866, le Seymour Gouverneur Higginson de Calcutta and Burnack Steam Navigation Company avait rencontré cette masse mouvante à 5000 dans l'est des côtés de l'Australie. Le capitaine Baker se crut, tout d'abord, en présence d'un écueil inconnu. Il se disposait même à en déterminer la situation exacte quand deux colonnes d'eau, projetées par l'inexplicable objet, s'élancèrent en sifflant à 150 pieds dans l'air. Donc, à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un geyser, le gouverneur Higginson avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques inconnus jusque-là, qui rejetaient par ces vents de colonnes d'eau mélangées d'air et de vapeur. Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année dans les mers du Pacifique par le Cristobal Colomb de West India et Pacific Steam Navigation Company. Donc, ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante, puisqu'à 3 jours d'intervalle, le gouverneur Higginson et le Cristobal Colomb l'avaient observé en 2 points de la carte séparés par une distance de plus de 700 lieues marines. 15 jours plus tard, à 2000 lieues de l'Helvetia, de la Compagnie Nationale et le Shannon du Royal Mail, marchant à contrebord dans cette portion de l'Atlantique comprise entre les États-Unis et l'Europe, se signalèrent respectivement le monstre par 42 degrés 15 minutes de latitude nord et 60 degrés 35 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. Dans cette observation simultanée, on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais, puisque le Shannon et l'Helvetia étaient de dimensions inférieures à lui, bien qu'ils mesurassent 100 mètres de l'étrave à l'étambot. Or, les plus vastes baleines, celles qui fréquentent les parages des îles Aléoutiennes, le Koulamak et l'Umgulik, n'ont jamais dépassé la longueur de 56 mètres, si même elles l'atteignant. Ces rapports arrivaient cube sur cube de nouvelles observations faites à bord du transatlantique, le Pereir, un abordage entre l'Etna de la ligne Inman et le monstre, un procès verbal dressé par les officiers de la frette français, la Normandie, un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du Commodore Fitz-James à bord du Lord Clyde, émue profondément l'opinion publique. Dans les pays d'humeur légère, on plaisanta le phénomène, mais les pays graves et pratiques, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, s'en préoccupèrent vivement. Partout dans les grands centres, le monstre devint à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on la joua sur les théâtres. Les canards eurent là une belle occasion de pondre des œufs de toutes couleurs. On vit réapparaître dans les journaux, à courte copie, tous les êtres imaginaires et gigantesques, depuis les baleines blanches, le terrible Moby Dick, des régions hyperboréennes, jusqu'à Kraken démesuré, dont les tentacules peuvent élancer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan. On reproduisait même les procès-verbaux de temps anciens, les opinions de Rostod et de Pline, qui admettaient l'existence de ces monstres, puis les récits norvégiens de l'évêque Pontoppidan, les relations de Paul et Jed, et enfin les rapports de M. Harrington, dont la bonne foi ne peut être soupçonnée quand il affirme avoir vu étant à bord du Castillon en 1857 cet énorme serpent qu'il n'avait jamais fréquenté jusqu'à alors que les mers de l'ancien constitutionnel. Alors éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques. La question du monstre enflamma les esprits. Les journalistes qui font profession de science en lutte avec ceux qui font profession d'esprit versèrent des flottes d'encre pendant cette mémorable campagne. Quelques-uns même, deux ou trois gouttes de sang, car de serpents de mer, ils en vendront aux personnalités les plus offensantes. 6 mois durant, la guerre se poursuivit avec des chances diverses. Aux articles de fond de l'Institut géographique du Brésil, de l'Académie royale des sciences de Berlin et de l'Association britannique de l'Institution smithsonienne de Washington, aux discussions de The Indian Archipelago du Cosmos de l'abbé Monio, des mythes Oehlungen de Petermann aux chroniques scientifiques des grands journaux de la France et de l'étranger. La petite presse ripostait avec une verve intérissable. Ces spirituels écrivains parodiant un mot de Linné, cité par les adversaires du monstre, soutiendront en effet que la nature ne faisait pas de sauts, et ils jurèrent leurs contemporaines de ne point donner un démenti à la nature, et admettant l'existence des krakens, des serpents de mer, des Moby Dick et autres élucubration de marins et de lire. Enfin, dans un article de journal satirique très réduité, le plus aimé de ses rédacteurs, brochant sur le tu, puça au monstre comme Hippolyte, lui porta un dernier cube et l'acheva au milieu d'un éclat de rire universel. L'esprit avait vaincu la science. Pendant les premiers mois de l'année 1865, la question parut être enterrée et elle ne semblait pas devoir renaître quand de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public. Il ne s'agit plus alors d'un problème scientifique à résoudre, mais bien d'un danger réel, sérieux à éviter. La question prit une toute autre face. Le monstre redevint îlot, rocher, écrit, mais écrit fuyant, indéterminable, insaisissable. Le 5 mars 1865, 67, le Moravian de Montreal Ocean Company se trouvant pendant la nuit par 27 degrés 30 minutes de latitude et 72 degrés 15 minutes de longitude, heurta de sa hanche de tribord un roc qu'aucune carte ne marquait dans ses parages. Sous la force combinée du vent et de ses 400 chevaux, vapeur, il marchait à la vitesse de 13 nœuds. Nul doute que, sans la qualité supérieure de sa coque, le Moravian, ouvert à coque, ne se fût englouti avec les 237 passagers qu'il ramenait du Canada. L'accident a était arrivé vers 5 heures du matin, lorsque le jour commençait à prendre. Les officiers du cart se précipitèrent à l'arrière du bâtiment. Ils examinèrent l'océan avec la plus scrupuleuse attention. Ils ne virent rien, si ce n'est un feu remus qui brisait à trois encablures, comme si les nappes liquides eussent été violemment battues. Le révèlement du lieu fut exactement pris et le Moravian continua sa route sans avarie apparente. Avait-il heurté une roche sous-marine ou quelque énorme épave de naufrage? On ne put le savoir, mais examen fait de sa carène dans les bassins de Radub, il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. Ce fait extrêmement grave en lui-même eut peut-être été oublié comme tant d'autres si, trois semaines après, il ne se fût reproduit dans ces conditions identiques. Seulement grâce à la nationalité du navire victime de ce nouvel abordage, grâce à la réputation de la compagnie à laquelle ce navire appartenait, l'événement eut un retentissement immense. Personne n'ignore le nom du célèbre armateur anglais Cunard. Cet intelligent industriel fonda en 1840 un service postal entre Liverpool et Halifax, avec trois navires en bois et à rue d'une force de 400 chevaux et d'une jauge de 1162 tonneaux. 8 ans après, le matériel de la compagnie s'accroissait de 4 navires de 650 chevaux et de 1820 tonnes, et, 2 ans plus tard, de 2 autres bâtiments supérieurs en puissance et de tonnage. En 1853, la compagnie Cunard, dont le privilège pour le transport des dépêches venait d'être renouvelé, ajouta successivement à son matériel l'Arabia, le Persia, le China, le Scotia, le Java, la Russia, tous navires de premier marché et le plus vaste qui, après le Great Eastern, eussent jamais sillonné les mers. Ainsi donc, en 1867, la compagnie possédait 12 navires, dont 8 à rue et 4 à hélice. Si je donne ces détails très succincts, c'est afin que chacun sache bien quelle est l'importance de cette compagnie des transports maritimes connue du monde entier pour son intelligente gestion. Nulle entreprise de navigation transocéan n'a été conduite avec plus d'habileté. Nulle affaire n'a été couronnée de plus de succès. Depuis 26 ans, les navires Cunard ont traversé 2000 fois l'Atlantique et jamais un voyage n'a été manqué, jamais un retard n'a eu lieu, jamais ni une lettre, ni un homme, ni un bâtiment n'ont été perdus. Aussi, les passagers choisissent-ils encore, malgré la concurrence puissante que lui fait la France, la ligne Cunard des préférences à tout autre, ainsi qu'il a perdu un relevé fait sur les documents officiels des dernières années. Ceci dit, personne ne s'étonnera du retentissement que provoqua l'accident arrivé à l'un de ses plus beaux steamers. Le 13 avril 1867, le mer étant tel, la brise maniable, le Scotia s'est trouvé par 15 degrés 12 minutes de longitude et 45 degrés 37 minutes de latitude. Il marchait avec une vitesse de 13 nœuds 43 centimes sur le pousset de ses 1000 chevaux vapeur. Ses rues battaient la mer avec une régularité parfaite. Son tirant d'eau était alors de 6,70 m et son déplacement de 6,624 m3. À 4h17 du soir, pendant le lunch des passagers réunis dans le grand salon, un choc peu sensible, en somme, se produisit sur la coque du Scotia, par sa hanche et un peu en arrière de la roue de bâbord. Le Scotia n'avait pas heurté, il avait été heurté, et plutôt par un instrument tranchant ou perforant que contondant. L'abordage avait semblé si légère que personne ne s'en fut inquiété à bord, sans le cri des calières qui remontèrent sur le pont en s'écriant « Nous coulons, nous coulons !» Tout d'abord, les passagers furent très effrayés, mais le capitaine Anderson se hâta de les rassurer. En effet, le danger ne pouvait être imminent. Le Scotia, divisé en 7 compartiments par des cloisons étanchées, devait braver impunément une voie d'eau. Le capitaine Anderson se rendit immédiatement dans les cales. Il reconnut que le 5e compartiment avait été envahi par la mer et la rapidité de l'envahissement prouvait que la voie d'eau était considérable. Fort heureusement, ce compartiment ne refermait pas les chaudières car les feux se fussent subitement éteints. Le capitaine Anderson fit stopper immédiatement et l'un de ses matelots plongea pour reconnaître l'avarie. Quelques instants après, on constatait l'existence d'un trou large de 2 mètres dans la carène du steamer. Une telle voie d'eau ne pouvait être aveuglée et le Scotia, ses rues à diminuer, dut continuer ainsi son voyage. Il se trouvait alors à 300 milles du Cap Clear et après 3 jours d'un retard qui inquiéta vivement Liverpool. Il entra dans les bassins de la compagnie. Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia, qui fut mise en cale sèche. Ils ne purent en croire leurs yeux. À 2,5 mètres au-dessus de la flottaison, s'ouvrait une déchirure régulière en forme triangle isocèle. La cassure de la tôle était d'une netteté parfaite et elle n'a pas été frappée plus sûrement à l'emporte-pièce. Il fallait donc que l'utile perforant qu'il avait produit fut une trempe peu commune et, après avoir été lancé avec une force prodigieuse, ayant ainsi parce que perce une tôle de 4 cm, il avait dû se retirer de lui-même par un mouvement rétrograde et vraiment inexplicable. Tel était ce dernier fait qui eut pour résultat de passionner à nouveau l'opinion publique. Depuis ce moment, en effet, les sinistres maritimes qui n'avaient pas de cause déterminée furent mis sur le compte du monstre. Ce fantastique animal endossa la responsabilité de tous ces naufrages, dont le nombre est malheureusement considérable, car sur 3 000 navires dont la perte est annuellement relevée au Bureau Veritas, le chiffre des navires à vapeur ou à voile supposés perdus corps et bien par suite d'absence de nouvelles, ne s'élève pas à moins de 200. Or, ce fut le monstre qui, justement ou injustement, fut accusé de leur disparition et, grâce à lui, les communications entre les divers continents devenant de plus en plus dangereuses. Le public se déclara et demanda catégoriquement que les mers fussent enfin débarrassé et à tout prix de ce formidable cétacé.